Merci, merci beaucoup.
Alors, ce que m'a proposé donc le Florent Fels, c'était d'aborder un évangile, au fond. Ce qu'est un évangile n'est pas forcément bien su. Le mot d'évangile lui-même est tout à fait curieux, et les quatre évangiles que nous avons dans le canon du Nouveau Testament sont des écrits qui ne ressemblent à aucune autre littérature. Ils ont d'ailleurs une ordonnance entre eux qui n'est pas forcément très facile à identifier. Ils présentent une série à la fois de convergences et de divergences qui reste aujourd'hui en bonne partie énigmatique. Pour rire, j'ai commencé mes études à l'époque où il n'y avait pas d'informatique. J'ai vu naître l'outil au fur et à mesure, et un de mes professeurs, qui était en même temps aumônier de la gendarmerie, était ingénieur de formation et disposait de l'outil informatique de Bison Futé, qui était un appareil très, très remarquable, et il travaillait sur les évangiles, notamment en synopse, et nous expliquait que grâce à cet outil, on allait certainement arriver à désemmêler l'écheveau justement de ces convergences et de ces divergences. Et 40 ans après, on ne sait toujours pas très bien comment se fait-il que les évangiles soient aussi cohérents entre eux et en même temps aussi originaux quand on les prend chacun. Alors, ce que je propose en quatre fois, alors ce n'est pas de faire un commentaire d'évangile. Enfin, il y a beaucoup de commentaires d'évangile qui expliquent, péricope par péricope, ce que cela veut dire. Et une fois qu'on a lu un commentaire d'évangile, on se dit, bon, ben, très bien, et maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Et on n'est pas forcément bien disposé. Je crois qu'un travail très utile, d'abord, c'est de réfléchir à l'identification d'un évangile, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, d'où ça vient, et surtout, comment il est organisé. Moi, je n'ai jamais acheté un livre... niveler d'ailleurs, sans regarder la table des matières. Vous voyez, et c'est ça principalement qui nous manque. On ne sait pas très bien par quel bout le prendre. L'usage liturgique qui fait qu'on prend des petits bouts, même à la suite, ça le découpe en tranches, ce n'est pas très simple non plus. Et il y a un principe très simple qui consiste à prendre le tout d'abord, et puis ensuite de considérer les parties en fonction justement de l'organisation de ce tout. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous présenter à propos d'un évangile, dont celui de Saint-Luc. Pourquoi Saint-Luc? Ben parce que j'aime bien Saint-Luc, voilà. Et que je travaille sur Saint-Luc de manière personnelle. Alors j'étais venu dans la maison sur Saint-Marc il y a quelques années, au temps de ton prédécesseur, parce que justement, à l'époque, j'étais plutôt dans Saint-Marc, et puis maintenant, je me suis... mais Saint-Marc, bon, voilà, une fois, je dis pas que j'ai fait le tour, mais il y avait des mystères dans Saint-Luc. Alors, pour la petite histoire aussi... Enfin, pour la petite histoire, c'est... on a donc des enseignements en premier cycle, en deuxième cycle, pourquoi. Et j'avais proposé qu'ayant fait une lecture globale de Saint-Luc en premier cycle, ça pouvait être intéressant de prendre une partie en deuxième cycle, donc on avait déjà vu le tout. Et comme il faut donner les sujets un an d'avance, donc on n'en sait rien de ce qu'on va faire, j'avais mis sur le papier la troisième partie de l'évangile de Saint-Luc qu'on appelle la montée vers Jérusalem, qui prend 10 chapitres et qui est réputée pour n'avoir pas d'ordre, justement. Oui, c'est pas possible qu'un type aussi bien organisé que Saint-Luc ait laissé la troisième partie sans ordonnance. Et j'ai dit, ben voilà, on va prendre ça comme sujet, et puis voilà, ce sont des gens un peu expérimentés. Ils ne perdront pas leur temps, je trouverai bien une hypothèse. Alors, il est arrivé, figurez-vous, que pendant un séminaire que je faisais, comme je fais actuellement un séminaire avec Florent, mais sur autre chose, j'avais un collègue, un confrère, qui ne comprenait rien. Enfin, qui ne comprenait pas ce que je comprenais, disons. Voilà. C'est pour être... Et alors, il était très obtus. En fait, il ne voulait pas. Il avait une autre idée. Il ne voulait pas entendre ce que je disais. Et si jamais vous faites de l'enseignement, il a fallu que je mouille ma chemise pour lui expliquer, pour lui rabâcher, pour essayer de le convaincre de la validité de mes arguments. Et sa tête étant dure, il a vraiment fallu que je me démène, mais ça a porté du fruit. Ça, pas tellement pour lui, mais pour moi. C'est-à-dire que les hypothèses que j'avais, j'ai dû les vérifier, les éclaircir, apprendre à les présenter un peu mieux. Et du coup, C'est-à-dire, ça arrive de temps en temps dans la vie. Voilà, je me suis dit, tiens, là, j'ai peut-être trouvé quelque chose, voilà, d'assez simple, mais qui permet de rendre compte un petit peu de l'organisation de Saint-Luc. Et donc, c'est de cela dont je voudrais vous faire profiter. Un petit mot encore avant sur le, comment dirais-je, comment situer Luc au milieu des quatre évangiles. Vous voyez ? Et surtout que Luc a un propos assez original. Une des dernières hypothèses, qui est beaucoup développée aux États-Unis en ce moment, depuis une dizaine d'années, c'est que les évangiles correspondraient véritablement, enfin tenteraient de correspondre à ce genre de biographie, de ce, les bioïs, comme on les appelait, hein, la vie de quelqu'un que l'on estimait parfaitement honorable de raconter dans l'Antiquité gréco-latine. Le problème, c'est que pour être l'objet de la mise en récit d'une vie, il faut avoir une vie honorable. On ne raconte pas la vie d'un bandit. Ça ne se fait pas. Or, matériellement, la vie de Jésus se termine comme celle d'un bandit. Et puis, surtout, l'aura du personnage n'est pas garantie. Je parle de celle de Jésus à l'époque du 1er siècle, qu'aujourd'hui on considère comme le top du top, c'est très bien, mais pour les contemporains, ce n'était pas le cas. Il n'y a qu'à voir ce que les premiers auteurs latins peuvent dire sur cette secte détestable qui commence à pénétrer dans les routes qui convergent vers Rome. Et c'est une secte détestable. Et donc, on ne pouvait pas raconter la vie de quelqu'un dont les idées détestables se répandaient et lui-même avait fini sur une croix. Et il semble, si on prend cette hypothèse, que c'est Saint-Marc qui a relevé le défi le premier. Vous voyez ? Avec une originalité qui est la sienne, c'est que Saint-Marc est un récit qui est peu compréhensible, de manière interne. C'est-à-dire qu'il y a une conviction, vous voyez, à l'intérieur de cet évangile, c'est que tel que les faits ont dû se passer, tel que Marc raconte les faits, il y a une seule personne qui comprend que Jésus est honorable, c'est Dieu. Vous voyez, ça passe mal du côté des hommes, mais il y en a un, vous voyez, qui reconnaît que cet homme est véritablement Dieu parmi nous, que c'est un saint, qu'il est innocent, etc. Mais celui-là n'est pas immédiatement perceptible, c'est Dieu. Il fallait culotter, vous voyez, pour arriver à faire rentrer un personnage aux yeux des hommes aussi perturbant dans le genre littéraire des vies de personnes édifiantes, tout en gardant le principe de ces vies, c'est-à-dire qu'il y avait au moins une personne qui en avait profité, c'était Dieu. Vous vous souvenez peut-être que l'évangile selon saint Marc, dans son dernier chapitre sur la résurrection, se termine, dans sa première version, dans sa première finale, sur le silence des témoins. Et les femmes s'enfuient du tombeau, elles ne disent rien, car ils ont la trouille, point final. Et ça se termine sur un silence. Et en un sens, c'est très éloquent, vous voyez, en disant on n'arrive pas à dire les choses. Et c'est très important, je crois, de considérer que les évangiles vont progresser les uns après les autres en surmontant une véritable difficulté. Et c'est pour ça que le genre évangile est si difficile à définir, c'est qu'il fonctionne sur des principes qu'on a du mal à reconnaître et que il y a comme un malentendu, et on essaye de tout faire dire à un évangile, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit dans la foi catholique, dans un évangile, alors que ça n'y est pas. Et il y a un fonctionnement, une espèce de progression, vous voyez, d'un évangile à l'autre, qu'il est bien utile de repérer. Pour bien savoir de quoi profite, par exemple, Saint-Luc, de manière un petit peu grossière, bien sûr, hein, et en même temps, ce qu'il permet. Y compris pour un autre évangile, par exemple, si Marc a été le premier, que fait Matthieu ? Il va développer notamment la partie enseignement, parce qu'il n'y a aucun discours dans saint Marc. On ne sait pas ce que... On nous dit souvent que Jésus enseigne, mais on ne dit pas ce qu'il enseigne. Comme on nous dit souvent qu'il prie, mais on ne sait pas comment il prie. Vous voyez, les silences sont énorme. Alors Matthieu va compenser le silence, les silences de saint Marc et va ajouter le sermon sur la montagne, le discours ecclésiastique, le discours par-ci, le discours en parabole. Oui, hein, saint Marc, saint Matthieu va faire le double de saint Marc, mais en gardant sa structure, mais en développant donc une partie dont pourront bénéficier tous les lecteurs. Si cette hypothèse de la vie écrite tient bien, il faut que la personne dont on écrit la vie soit recommandable et qu'elle puisse apporter quelque chose à ses lecteurs. Vous voyez ? Dans saint Marc, je vous assure, quand on l'a lu, quand même un peu travaillé, et qu'on le termine, on se demande où on en est. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle de nos jours, depuis la fin du XXe siècle, l'évangile pour les catéchumènes. On a redécouvert saint Marc, et ce qu'on appelle pour les catéchumènes, c'est-à-dire que pour les gens sur qui l'évangile, boum, tombe, qui ne sont pas dans un milieu favorable quant à l'éducation chrétienne, qui ne comprennent pas forcément ce qu'il ressort d'un évangile, mais qui s'attachent fermement à la personne du Christ. Et dans l'évangile de Marc, on s'attache au Christ, mais on ne sait pas très bien pourquoi. On appelle ça un peu après la foi du charbonnier. Vous voyez, l'attachement à la personne, mais on ne sait pas très bien ce qu'il dit. Ce qu'on disait beaucoup du pape Jean-Paul II, hein, quand il parlait aux jeunes dans les stades, pour être honnête, hein, moi j'étais le contemporain, les gens étaient ravis d'être là, mais il a dit quoi ? Non, on a vraiment pas compris. Ça, c'est
pas comme ça.
Hein ?
J'espère que c'est pas comme ça pour mes homélies.
Non, mais c'est une... on aime... Il y avait un apophtel, ça n'enlève rien à sa sainteté, mais on aime la musique, mais on n'a pas besoin des paroles. Vous voyez ? Et c'est pas du tout une critique. Hein. La notion de s'attacher à quelqu'un ne dit pas forcément que l'on comprend ses paroles. Donc l'évangile des catéchumènes humaines, donc amplifié par saint Matthieu. Mais par exemple, voyez, pour ne pas tout demander un évangile, je ne sais pas si vous vous souvenez comment se termine l'évangile selon saint Matthieu. La toute dernière phrase. Très bien. Oui. Non mais c'est une belle phrase en plus. Hein. Mais est-ce qu'elle est vraie ? Non, mais dans 15 jours, jeudi, on ne sera pas réunis parce que c'est l'ascension. Vous voyez ? Saint Luc va raconter que Jésus s'en va. Et qu'il reviendra un jour. Vous voyez ? Donc, Jésus n'est plus là. Vous voyez ? Ben, saint Marc ne le dit pas. Saint Matthieu ne le dit pas. Il dit même le contraire. Vous voyez, pour saint Marc, il n'y a pas de discontinuité. Jésus ressuscité, je suis avec vous tous les jours. Il faut attendre saint Luc pour avoir les récits de l'ascension. Et qu'est-ce qu'on aura avec saint Jean ? Non seulement il s'en va, mais il est bon pour vous que je m'en aille. L'Esprit Saint viendra, il vous fera... Vous voyez, par rapport à ce lien avec le Christ, chaque évangile dit quelque chose au fur et à mesure. Et ce que dit un évangile permet à un autre évangile d'aller un peu plus loin, de reprendre la problématique et de l'approfondir. Et au fond, on a trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Enfin, si on prend dans l'ordre chronologique, par hypothèse, hein, Marc, Matthieu, Luc... Luc va bénéficier de l'apport de ses deux prédécesseurs, mais il va continuer, ce qu'on peut rappeler, la problématisation de l'identité de Jésus et surtout du lien qu'on peut entretenir avec lui. Comment peut-on croire en lui ? Comment peut-on l'entendre ? Comment peut-on le contacter ? Puisque justement, il n'est plus immédiatement disponible comme il l'a été pendant 30 ans. Vous voyez le problème ? Et il y a des moments où on ne sait pas poser le problème. On ne sait pas dire, ben, au fond, il n'est pas là. Alors on dit, ben, il doit être là, mais on ne sait pas comment. Vous voyez, il ne faut pas demander ça à l'évangile selon saint Matthieu. Alors qu'on commence à problématiser cette question du côté de saint Luc et qu'on continuera. Alors saint Jean a cette... Saint Jean, lui, on va le voir pendant ces quelques séances, va profiter de saint Luc. Vous voyez, il va pousser plus loin des problématiques que Luc est le premier à mettre en œuvre, toujours sur le contact possible avec cet homme. Et comment peut-on entrer en contact avec l'identité, la fonction, le ministère de Jésus lui-même. Et alors, Jean aura ce style un peu particulier par rapport à ses trois prédécesseurs, dont il se démarque, non seulement dans le choix du plan, dans le choix des événements ou des paroles qu'il va rapporter, mais dans la méthode. Et c'est là où c'est intéressant, parce que vous voyez, Jean est le premier, non seulement à avoir un récit, mais à faire des commentaires. Et si on éditait un peu différemment l'évangile selon saint Jean, on aurait beaucoup de notes de bas de page. Je dis ceci, en fait, ça veut dire cela. Vous voyez, il fait des commentaires. Ce qui va donner, en fait, le développement de la théologie jusqu'à aujourd'hui. Et la théologie d'aujourd'hui va multiplier donc les commentaires des paroles qui ont été dites. Et ce style, vous voyez, existe déjà dans le quatrième évangile. Luc, vous voyez, est à un stade antécédent.
Je n'avais jamais réalisé, mais je comprends pourquoi on dit Jean théologien.
Exactement. Voilà, Jean le théologien. C'est pas que les autres ne soient pas des théologiens, mais Jean est théologien comme nous le sommes.
Alors, comment que l'évangile.
Ah oui, c'est très amusant. Mais il a fallu du temps. Vous voyez, il a fallu que on ose commencer. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour saint Marc parce qu'il fallait être gonflé. Vous voyez, je comprends le travail de saint Matthieu. Alors Luc. Et le plus problématisant, justement, hein, y compris dans les difficultés. Alors, je vais essayer de vous montrer très simplement comment Luc fonctionne et comment son fonctionnement permet d'identifier son problème. Sa problématique est une véritable problématique christologique. Oui, on voit qui est Jésus et comment pouvons-nous croire en lui et surtout comment pouvons-nous le suivre. Parce que chaque évangéliste cherche à faire suivre le Christ comme un maître, oui, dont on est le disciple. Alors là encore, de manière très originale, Luc prend du temps et vous connaissez le dédoublement de l'évangile avec les actes des apôtres. Alors, ce n'est pas le lieu de démontrer. Alors vous savez, bon, maintenant je suis un ancien, je dirais, il y a 40 ans, on avait l'air d'un crétin quand on disait que c'était le même auteur qui avait écrit Luc et Actes, il fallait absolument tout démonter. Aujourd'hui, on passe pour un crétin si on ne dit pas que c'est le même auteur. Ah ben, il y a des raisons, en fait. Hein. Ce n'est pas des raisons idéologiques. Hein. On a vraiment des nuées de bons arguments pour montrer donc, que c'est une œuvre en deux volumes. Pourquoi le canon des Écritures, le canon a séparé Luc et Actes en mettant Saint-Jean entre les deux? Il y a peut-être les raisons justement d'identifier les évangiles, de garder les évangiles ensemble. D'autre part, si c'est une œuvre en deux volumes, elle est vraiment en deux volumes. Il y a vraiment une conclusion de l'évangile et on reprend, vous voyez, en un deuxième temps, un autre récit. Et justement, cette rupture nous fait mettre le doigt sur quelque chose de très simple. Si les actes des apôtres sont racontés de la manière dont ils le sont, c'est-à-dire en faisant fonctionner ce qu'on appelle le principe de la synchrésis, je ne sais pas si vous connaissez la synchrésis, c'est deux récits qui convergent. Et, ils ne sont pas en parallèle, ils ont fait pour se rencontrer, et c'est un principe tout à fait classique dans la rhétorique ancienne, gréco-latine, et c'est le béaba de l'évangile de Saint-Luc, ne serait-ce que dans ces deux grands volumes. Hein. Ils sont très importants à définir. Oui, ce que Jésus dit et fait, on va nous montrer que Pierre est capable de le dire et de le faire. Et on va choisir des paroles et des gestes de l'évangile, et on va choisir les mêmes pour Pierre, puis pour quelqu'un comme Étienne, donc un outsider, puis Paul, un opposant. Et la synchrésis marche complètement. Ce que Jésus fait, Pierre le fait. Ce que Pierre fait, Étienne le fait. Ce que Étienne fait, Paul le fait. Et lui, c'était un opposant. Donc si Paul le fait, n'importe qui peut le faire. Vous voyez, donc il nous montre tout simplement que la suite du Christ est possible. Ce que Jésus a fait, donc on est capable de le faire. Alors, vous voyez, comme sur ce petit principe, dans le discours après la scène de saint Jean qu'on lit dans la liturgie pendant les 15 jours qui viennent, non seulement on a ça, mais Jésus dira, j'ai fait des choses assez sympas, mais vous en ferez de plus grandes encore. Vous voyez, non seulement on peut faire ce qu'il fait, mais on peut faire mieux. Vous voyez, c'est assez surprenant, mais pour ça, c'est saint Jean qui le dira seulement. L'art de Luc. Pour bien montrer cet assemblage, voyez, on peut suivre le Christ, refaire ce qu'il a fait, répéter ce qu'il a dit, est tellement présent dans son œuvre que, par exemple, par rapport à Matthieu Marc, Luc, de temps en temps, va nous cacher un événement, un fait, un détail, voyez, sur Jésus pour ne le raconter qu'à partir d'une autre instance, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques. Vous voyez, je prends un exemple pour vous montrer justement qu'il y a de nombreux arguments pour prouver, si vous voulez, pour établir cette unité Luc-Acte. Par exemple, dans le procès de Jésus, Matthieu et Marc racontent que des faux témoins ont été produits pour l'accuser. Les faux témoins disparaissent dans le récit de Saint-Luc. Mais lorsque Étienne, diacre, est lui-même mis en procès, Luc nous raconte que de faux témoins sont convoqués pour son accusation. Oui. Donc il fait de la, ce qu'on appelle de la rétention d'informations à propos de Jésus pour montrer que ce n'est pas Jésus seulement qui avait lu ça, mais c'est son disciple. Pour montrer vraiment que tout ce que Jésus a dit et fait est disponible pour pouvoir, encore une fois, le dire et le faire. Alors, ce principe, voyez-vous, de la possibilité de suivre le titre peut paraître évident, mais on va voir qu'il est mis en échec par un autre principe de Saint-Luc qu'il va développer dans la deuxième partie de son évangile. Mais je le dis tout de suite pour montrer justement la problématique. La deuxième partie, alors, comment se composent les évangiles, hein, donc des préparations, on va voir le plan aujourd'hui. Un ministère, ça va de 1 à 4 en gros. Un ministère en Galilée, ça va de 5 à 9, vous voyez. Une longue, 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 ça sera le plus intéressant, montée vers Jérusalem de 10 à 21, et puis un récit assez court de la passion et de la, la résurrection. Oui, donc, vous savez, un évangile, 24 chapitres, ça va assez vite. Hein. Et ce que j'aimerais d'ailleurs vous donner comme impression, c'est qu'un évangile, c'est pas très compliqué. Hein. On peut arriver à en mémoriser le fonctionnement et du coup à bien comprendre les différentes articulations et tiens, pourquoi on a ça à tel moment et pourquoi on a ça après, ce qu'on appelle une certaine familiarisation ou une appropriation de son enseignement. Donc, une des clés que je dis tout de suite, on s'interrogera spécialement sur ce chapitre la fois prochaine, mais c'est une scène que vous connaissez sûrement, c'est Jésus qui arrive à Nazareth et qui fait une grande prédication dans la synagogue, là où il a grandi. Vous voyez, alors il a plus de 30 ans, il ne semble pas n'avoir fait grand-chose d'exceptionnel avant, et puis tout le monde arrive à le reconnaître, il commence à faire des miracles, et il arrive chez lui. Alors Luc le met au début du ministère galiléen, vous voyez, c'est déjà le chapitre 4. Dans le chapitre 13, chez saint Matthieu, par exemple, voyez, ça, il le raconte. Matthieu va le raconter en son temps, voyez, et Luc va anticiper narrativement cette scène parce qu'il en fait quelque chose d'emblématique. Il faut tout de suite qu'il le dise. Et cette scène où Jésus lit le prophète Isaïe et le commente de manière synthétique vient s'appuyer d'un principe terrible. Aucun prophète n'est recevable dans sa patrie. Vous voyez, je traduis de la manière la plus exacte, hein, le mot grec dektos est un adjectif verbal, voyez, donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas reçu, voyez, de manière ponctuelle, mais c'est un principe qui dit le prophète n'est pas recevable parmi les siens, dans sa patrie. Voyez. Alors que les actes des apôtres nous montrent qu'on peut devenir disciple, dès le départ, on nous dit non, il y a un problème, on ne doit pas pouvoir. Ça ne marche pas. Et Luc, par cette tactique, voyez, établit ce qu'il va déployer partout, c'est une double polarité. Voyez. Il y a un évangile, il y a des actes. Ils disent un principe, il y a un deuxième principe. On peut suivre le Christ, on ne peut pas le suivre. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la confrontation des deux qui va être intéressante. Et Luc va multiplier ces dédoublements, vous voyez, en lien avec cette synchrisis ou ces parallèles qu'il va toujours falloir repérer pour bien comprendre ce à quoi il veut en venir. Mais voyez qu'il y a une difficulté qui, pour la première fois, est explicitée dans le récit. Marc disait simplement « il n'y a que Dieu qui comprend ». Matthieu dit ben, « débrouillez-vous hein. ». Et Luc, lui, va réfléchir sur les aléas, les tenants et aboutissants de cette difficulté, qui sont évidemment de l'ordre du fond, de l'ordre de la théologie. Hein. Luc va développer une idée très intéressante, qu'on appelle simplement maintenant celle de l'incarnation. Mais à bien y réfléchir, l'incarnation, ça ne devrait pas être possible. Le fait simplement que Dieu se fait homme. Ou qu'un homme puisse se reconnaître comme Dieu. Là encore, il n'y a que saint Jean qui fera dire au Christ, vous saurez que je suis. Vous voyez, le nom de Dieu dans le buisson ardent, hein, je suis absolu, donc il veut dire je suis Dieu. Et à ce moment-là, on lui jette des pierres, évidemment. Mais la fameuse question de la divinité de Jésus est une question qui est impossible à poser dans les conditions du premier siècle. Pourquoi ne peut-on pas dire que Jésus est Dieu ? Pourquoi ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, directement, frontalement, ne peuvent dire comme nous, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, ce qui est la base de notre foi. Pourquoi Saint-Luc ne peut pas le dire, monsieur, je pense Saint-Luc ? Qu'est-ce que ça donnerait si Jésus disait « je suis Dieu » ? Qu'est-ce que les gens comprendraient ? Qu'est-ce que vous comprenez, Boudère, quand on dit que Jésus est Dieu ? Ça donnerait quoi dans le monde religieux de l'époque, et qui est le monde juif ? Ben, il est fou, mais pourquoi il serait fou ?
Parce que c'est du polythéisme.
Hein ?
Parce que c'est du polythéisme.
Ben oui, c'est tout simple. Si Jésus est Dieu, ça fait un deuxième Dieu. Or, Dieu est unique. Ça, c'est quelque chose de très, très basique. Alors, c'est bien gentil de dire que Jésus incarne Dieu, que Jésus représente Dieu, que Jésus est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, etc. Mais dans le fond, ça veut dire, est-ce qu'on a les moyens de rendre compte de cette affirmation ? Il va falloir attendre des siècles pour développer les concepts de philosophie, de nature et de personne dans le monde grec pour pouvoir exprimer ça. Un évangile, c'est un livre, c'est un récit. Un récit, c'est des mots. Des mots, ça emprunte à une langue, à une morphologie, à une syntaxe. Une langue ne peut pas tout dire. Mais on disait à certains que ça fait très chic, mais c'est au fond très simple. La messe en hébreu, célèbre parfaitement Florent quand il veut. La messe en hébreu, ça passe admirablement, mais il y a une partie de la messe qui ne passe pas, c'est le credo. Vous voyez ? Dire la foi de l'Église en hébreu, que ce soit l'hébreu moderne ou l'hébreu ancien, ça passe pas. Marie, mère de Dieu, en langage sémitique, vous imaginez les parèdres, les dieux qui s'engendrent, c'est d'un paganisme épouvantable. Oui, les oreilles saignent. Oui, c'est pas possible. D'ailleurs, on traduit souvent Sainte Marie, Marie Agdocha. On dira pas mère de Dieu. En hébreu, ça passe pas. On a trouvé un nouveau syntagme plus malin, mère de l'Emmanuel, mère de Dieu avec nous, M. Immanuel. Alors ça, c'est très joli, ça passe bien, et c'est très vrai. Voyez, mais il faut trouver des astuces pour bien dire que Dieu est unique et qu'il n'y a pas un deuxième Dieu. Vous voyez, c'est ce genre d'impossibilité qui existe. Comme on disait ce matin, le fait, par exemple, d'être prêtre. Comme on travaille sur cette question-là, ça me vient un peu à l'esprit, mais c'est du même genre. Vous voyez, les prêtres juifs sont des Cohen. Et moi, si j'arrive, je vais en Israël, à l'aéroport, on me demande « qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je vais répondre « qu'est-ce que je vais dire ?»« Je suis Cohen. »« Ah bon, donc tu as un père juif ?»« Non. Ben, »« t'es pas Cohen. Ben, » Je dis « non. Ben, »« You are what ?»« I am priest. »« Ah, tu es un commère. »« Commère, c'est le sorcier. » Ça va pas du tout. Non, je suis pas commère. Enfin, commère, je ne suis pas sorcier. Mais je suis pas Cohen. Mais Jésus n'est pas prêtre comme était, etc. Enfin, vous voyez, sur des questions de langage, et nos évangélistes ont dû défricher cette question de pouvoir dire en quoi ils croyaient et ce que, à la fois dans leur raison mais dans leur foi, ils avaient reçu de la mission et de l'identité de Jésus. D'où ces conflits, voyez, ces différentes positions ou cette bipolarisation, ces dédoublements perpétuels qui organisent l'œuvre tout entière de Saint-Luc. Voyez. D'ailleurs, dans ce domaine-là, voyez-vous, dire que l'incarnation entre guillemets n'est pas possible est un défi que l'islam nous relance à la figure, mais en ce sens qui peut être extrêmement utile. Vous voyez, cette fureur devant l'affirmation que Dieu s'est fait homme ou que Dieu a un fils, qui nous dit « Ah, scandaleux, ils sont d'une... » Mais non, mais attendez, notionnellement, ils n'ont pas tort. Vous voyez ? Et il y a une difficulté qu'il faut surmonter, dont nous n'avons pas forcément conscience. Car c'est quelque chose d'inouï qui est le cœur même de notre foi. Alors, nous sommes habitués, parce qu'on a toute une tradition, notamment le français, oui, qui s'est vraiment frotté, oui, à la théologie, l'allemand aussi, l'anglais aussi, pour des raisons historiques. Mais au premier siècle, on ne sait pas faire. Donc il y a une autre méthode, voyez, à laquelle il faut se plier pour entrer justement dans le vrai travail, voyez, de la pensée et de la réflexion, voyez, échangée à partir de ces premières expériences. Alors, oui, donc déjà, Luke Hart s'embarque comme ça dans le concert des évangiles qui précède. Luke, heureusement, vous voyez, un des seuls d'ailleurs, hein, nous donne un prologue méthodologique. Ce sont les 5 premiers versets. Je vais vous les lire, hein, ce n'est pas très compliqué. Je vois que si vous avez une Bible la fois prochaine, j'aurais dû y penser et ça n'aurait pas été très long, mais peu importe. Hein. De toute façon, vous allez voir, c'est un texte de 4 versets. Hein. Pour les littéraires, hein, c'est une période, hein, c'est une seule phrase. Hein, le français met des points partout, hein, mais dans le texte, c'est une seule phrase bien faite et qui marche par de nombreux. On va être sensible au dédoublement, et puisque, pour les repérer après dans le récit. Et, alors, puisque beaucoup ont entrepris de composer hein, un récit des événements accomplis parmi nous, vous remarquez qu'il ne dit pas lesquels, hein. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui furent dès le début témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Ça, c'est, voilà, un premier dédoublement qui est très important, qui va fonctionner dans l'ensemble de l'Évangile. Les témoins oculaires, ah oui, on dit, tiens, c'est bien, il y a une dimension historique, il a fait une enquête, hein, il dira après, je me suis informé de tout à partir des origines. Mais que voit le témoin oculaire? Que voit un témoin oculaire? Et là, Luc pose justement une condition qui est fondamentale. Le témoin oculaire doit devenir serviteur de la parole. On va voir au fur et à mesure de l'évangile que les témoins oculaires ne sont pas à la fête. Que voient-ils? Rien. Enfin, rien. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Et ils ne voient pas la profondeur de ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, ça va avoir une grande importance après. Oui, j'ai fait une étude du verbe voir dans Saint Luc. Il y a 50 occurrences, il y a 48 fois l'objet du voir est un voir surnaturel. Je voyais Satan tomber comme l'éclair. Mes yeux ont vu le salut. Bienheureux ceux qui voient ce que vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui tombe, etc. etc. Vous voyez, il ne s'agit jamais de voir selon les apparences, mais de voir en profondeur. Au fond, le voir qui est... En honneur dans Saint-Luc, ça va être un voir éclairé par la foi. Et pas n'importe quelle foi, pas une foi aveugle, mais servir de la parole. La parole, c'est non seulement le verbe, car on l'a plusieurs fois chez Saint-Luc avant de l'avoir chez Saint-Jean, mais c'est aussi la parole de Dieu qu'on a dans l'Ancien Testament. Donc il y a toute une correspondance qu'il va falloir chercher pour analyser ce qu'on voit, pour l'identifier, pas simplement avec ce qui est vu, mais avec ce qui a été annoncé, ou bien ce qui commence d'être promis. Et il y a tout un cheminement qui est important. Donc il m'a paru bon. Alors vous voyez, puisque beaucoup ont écrit, moi aussi je vais écrire. Là encore, un dédoublement. Voyez. Pour les feignants, vous voyez, c'est très mauvais, parce que moi je dis toujours, hein, puisque c'est fait, je n'ai pas à le faire. Hein. Eh bien non, c'est le contraire. Voyez, hein. Puisque beaucoup ont commencé à écrire sur Jésus, et il ne dit pas que ce sont des bandits, des malfaisants, des traîtres, abominables. Hein. Non. Il n'y a aucun jugement critique. C'est très bien ce qu'a fait Marc, hein. C'est très bien ce qu'a fait Matthieu. Mais ça nécessite d'aller plus loin. Et ce mouvement, mes chers amis, il continue. Si on continue d'écrire, de commenter, de chercher, même moi, des articulations, des clés d'intelligence dans nos textes, c'est qu'on doit le faire, on peut le faire. L'Évangile est loin d'avoir livré tous ses secrets, parce que la personne qui est derrière n'a pas non plus livré tous ses secrets. Il y a beaucoup à faire. Et ceux qui travaillent dans l'ordre de l'exégèse ou de la théologie ont de beaux jours devant eux. Ce n'est pas bien payé, mais au point de vue de la recherche elle-même, c'est tout à fait passionnant. Voyez. Alors, d'en écrire pour toi un récit ordonné. Oui, j'ai composé un récit et j'en écris un récit ordonné. Il y a deux fois l'expression de la liberté, de la pédagogie avec laquelle Luc va remanier les sources dont il dispose, et qui étaient peut-être plus nombreuses que le Matthieu-Marc que nous connaissons, pour en donner maintenant une version plus claire, plus profonde, qui permet d'aller plus loin sur son objet, qui n'est même pas défini dans ce texte. Il ne dit pas que c'est sur Jésus dont il va parler. Il s'adresse à un très honorable Théophile, qui en toute hypothèse doit être un espèce de sponsor aujourd'hui, parce qu'il ne suffit pas d'écrire un livre, il faut un éditeur. Et les éditeurs, quand vous publierez des thèses, hein, il faut trouver quelqu'un de bien pour le diffuser. Et là, c'est une question de diffusion. Il fallait payer des copistes pour les répandre un peu partout. Et puis on payait aussi des comédiens ou des orateurs qui apprenaient par cœur le texte et qui le récitaient, comme ça se fait dans certains théâtres encore maintenant. J'ai vu qu'il y avait un nouveau bouquin qui a un succès fou sur Saint-Marc. C'est un Italien qui a fait ça et qui a lu du Saint-Marc comme ça se faisait il y a 30 ans. Elle a été Montparnasse. Et ça passe très bien. Et ça passe très bien. Et lui, il se fait de l'argent, lui, évidemment. Oui. Et Théophile, donc, est certainement un. Mais alors, que doit faire Théophile? Là encore, nous avons un dernier dédoublement afin que tu puisses constater des enseignements que tu as reçus, virgule, et le dernier mot de cette période, c'est la solidité, l'asphaléia, l'asphalte. Oui. Mais là aussi, c'est intéressant. Luc nous dit qu'un évangile n'est pas forcément une première information sur ce que Jésus a dit et fait. C'est un processus d'approfondissement et de confirmation. Et la foi est un processus évolutif. C'est pas le christianisme n'a rien de dogmatique. Et le dogmatisme, qui réduit tout dans des formules toutes faites, ne résiste pas à la puissance de l'évangile. Et moi qui ai fait, je ne sais pas combien de je ne parle pas des cours qui sont longs, mais de sessions bibliques sur le terrain, il m'est arrivé, je disais à la table, d'en faire 4 de suite pendant l'été. C'était le même texte, c'était le même itinéraire, ce n'était pas les mêmes groupes. Je n'ai jamais eu l'impression de me répéter. Et la parole était toujours neuve et j'avais l'impression toujours d'aller un peu plus loin. Vous voyez donc, beaucoup, moi, témoins oculaires, serviteurs de la parole, composés, un récit ordonné, une première connaissance et un approfondissement. Voilà, vous avez 4 binômes, vous voyez, dans ce prologue, hein, qui forment déjà une sorte de climat dans lequel va se déployer les 4 parties de l'évangile. Alors, encore une fois, je mets le mot binôme, qui est le mot le plus plat et le plus simple possible, mais pensez à toutes ces techniques, vous voyez, de synchrisis, vous voyez, donc de récits, de personnages, etc., qui convergent, de dédoublement, hein, ou alors aussi de véridiction, vous voyez, de l'anagnorisis, hein, comme on l'appelle de manière un peu plus savante, vous voyez, connaître et reconnaître. Hein. Tenez, est-ce que ce n'est pas le principe d'ailleurs du fond même du message chrétien? Vous savez, la tradition orientale qui maintenant progresse un peu dans notre Occident, le jour de Pâques. L'usage veut, chez les Grecs notamment, que l'on proclame à quelqu'un, il est ressuscité, et le quelqu'un doit répondre, il est... Alors, qu'est-ce qui est important dans cette répétition? Voilà, qu'on pourrait traduire, et en plus c'est vrai, vous voyez. Non mais je veux dire, il ne suffit pas de le dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez. Tant mieux pour lui? Non, tant mieux pour moi, tant mieux pour nous. Vous voyez, c'est un processus qui, alors peut-être simplement un simple code verbal, mais qui peut être aussi toute une démarche, et à ce moment-là, nous sommes totalement dans Saint-Luc. Vous voyez. Alors, sur la feuille que je vous propose, vous voyez, alors j'ai résumé le côté de Luc 4, avec le verbe accueillir, hein, recevoir, accueillir, hein, donc qui est très important, on le verra souvent, hein, comment peut-on recevoir l'irrecevable, hein, et donc comment le prologue fonctionne. Voyez, alors, ça nous met, je vous mets le plan de ce que j'appelle les préparations. Les préparations. J'évite le mot de évangile de l'enfance. Pourquoi? Parce que les évangiles de l'enfance, c'est un mot, c'est un vocable tout à fait français, tout à fait classique. Ce qui m'embête là-dedans, c'est le mot enfance qu'on prend souvent pour enfantin. C'est-à-dire que, malheureusement, nous avons fait de ces récits, au moins les 2 premiers, de Saint-Luc, une sorte de joyeuse fable, de folklore très aimable. Alors, ce sont des textes extrêmement lourds, extrêmement difficiles et qui sont remplis à la fois de promesses, mais d'énigmes, de difficultés, d'échecs, et qui nous montrent justement que pouvoir recevoir l'irrecevable, c'est une aventure dans laquelle il faut se risquer, et ce n'est pas un jeu d'enfant. Et, pareil pour saint Matthieu. Bon, on a la crèche, etc., mais vous savez que le lendemain de Noël, ou le surlendemain, c'est les saints innocents, c'est le massacre des petits-enfants, c'est la migration de la Sainte Famille en Égypte pour échapper à la violence. Bref, c'est pas du tout, hein, non, c'est pas du tout du folklore sympathique, hein, c'est extrêmement dur. Comment est-on roi? Est-ce que c'est Hérode qui représente le type de royauté de l'Évangile? Ce n'était pas plutôt le type de l'opposant qu'il va falloir se... qu'il va falloir contrer, qui va toujours être contre l'Évangile et qu'on va supporter dans telle situation que l'on soit. Alors, je vais simplement regarder quels sont les grands passages. Alors, puisque Luc aime les binômes, nous avons quatre diptyques pour commencer. Hein. Donc ça va du chapitre 1, verset 5, après le prologue, hein, et ça se termine au chapitre 4, verset 13, ne serait-ce que par séparation de ce qui suit. Vous voyez, à partir de 4, 14, nous avons le commencement de la prédication publique de Jésus qui va, comme on dit, commencer son œuvre de sa révélation, hein, avec un sommaire en 14. Etc. Oui. Donc nous avons une unité qui va de 1, 5 à 4, 13. Ça se présente en quatre diptyques, quatre tableaux doubles. Vous voyez, nous avons deux annonces. Une à Zacharie, une à Marie. Nous avons deux naissances, une de Jean-Baptiste, une de Jésus. Nous avons deux scènes au temple, Jésus quand il a 40 jours et Jésus quand il a 12 ans. Et puis deux scènes d'inauguration, de préditation prophétique, celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Vous voyez, dans ces quatre diptyques, trois sont toujours Jésus, enfin, Jean-Baptiste, Jésus. Et ils sont mis toujours en regard, comme en miroir l'un l'autre. Mais c'est plus compliqué que ça. Vous voyez, si vous regardez le plan que je vous ai donné, vous voyez, chapitre 1, verset 5 à 25, annonce à Zacharie de la naissance de Jean. Très bien. Ensuite, et on va voir, bon, vous vous souvenez, en gros, Zacharie ne marche pas, vous voyez, enfin, pose une question, il se fait renvoyer dans ses gaules. Marie pose une question et dit, ma chérie, voilà la réponse. Mais, alors pourquoi, telle est l'attitude de l'un et de l'autre, etc. Hein? Non, mais, quand je vous dirai, si on a le temps, les interprétations qu'on peut donner quelquefois à cette mise en regard, c'était effrayant. Hein? Mais c'est encore plus malin. L'annonce à Marie, elle-même, elle est dédoublée. Et vous pouvez bien comprendre pourquoi. L'annonce à Marie, nous connaissons tous le texte. Qu'est-ce que Marie peut faire une fois que l'ange s'est barré? Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Chez sa cousine.
Alors, oui, elle va avoir besoin d'aller chez quelqu'un en chair et en os pour dire, t'as compris quelque chose, toi? Et elle va entendre de la part de sa parente, de sa tante ou sa cousine, je ne sais rien, disons cousine plutôt, les tantes maintenant, hein. Et donc elle va entendre comment se dit que la mère de mon Seigneur vienne me voir. Et donc elle va entendre une confirmation de la part d'Élisabeth de ce que l'ange lui a dit. Pourquoi cette confirmation est-elle nécessaire? Pour qui? Marie, après que l'ange lui ait parlé, quelle est son attitude? Je suis la servante du Seigneur, plutôt croyante. Est-ce que ça suffit?
Avec une parole, il y a un acte.
Mais là, c'est deux paroles. Mais de quoi Marie a-t-elle besoin? Elle se retrouve enceinte. C'est ça, les hommes ne comprennent rien. Non, mais heureusement, il n'y a pas que des séminaristes en cours. Parce que, genre séminariste un peu lourdeau, ben, elle avait qu'à le dire à son mari. C'est ça, oui. Voilà, Joseph, là, un ange est venu me voir. Et il m'a dit que j'étais enceinte. Et là, voilà. Ouais. Mais non, mais est-ce que vous êtes... Non, mais c'est ça l'Évangile. Non, mais l'Évangile, ce sont des situations qui ont existé. Et on peut se moquer du catéchisme des enfants où on va quelquefois... Alors, il ne faut pas mimer devant des mômes de 9-10 ans cette scène-là, c'est un peu trop sérieux. Mais en même temps, quand on mime les scènes, on se rend compte qu'on est dans des situations tout à fait réelles et que, comme Luc nous le montre depuis le départ, on manque... de mots, on manque de convictions, on manque d'éléments pour comprendre ce qu'on croit. simplement par le fait qu'on est amené, ne serait-ce que par la vie quotidienne, de partager ce que l'on croit, surtout la mère, avec celui qui lui est donné comme époux, vous voyez, et donc qui devra éduquer cet enfant. Il faut bien qu'elle lui en parle. Mais elle ne peut, vous voyez, c'est tout l'évangile, ça. Elle ne peut pas dire qu'elle a vu un ange. Vous voyez. On a déjà une scène comme ça dans l'Ancien Testament. Vous connaissez Samson ? Alors, Samson, mais il a des parents, ce brave garçon. Hein. Manoar et puis sa femme, vous voyez. Alors, comme dans, toujours dans la Bible, la femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il bossait dans les champs et il s'était séparé un peu. Et un ange dit pareil à la femme de Manoar : tu vas avoir un fils. Il ne boira pas de vin, etc. Bonne fille, un peu naïve, elle court vers son mari, chérie, j'ai vu un ange, et il m'a dit que j'allais être enceinte. Il n'est pas très content, mais enfin, il est parti. C'est dans le livre des juges, hein, je n'invente rien. Mais il faut le raconter comme ça, sinon c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle, sinon ça ne marche pas, vous voyez. Il lui dit, écoute, s'il revient, tu me préviens. Comme l'ange est sympa, quelques jours après, l'ange revient. Et c'est moi. Bougez pas. Et elle va chez Manoar, il est là. Alors c'est dans la Bible. Hein. C'est toi qui as dit à ma femme qu'elle allait être enceinte. Alors je suis l'ange de. Comment tu peux le prouver? À ce moment-là, une flamme de feu tombe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Manoar, on va mourir. On a vu Dieu. Et la femme, bah, oui, mais il m'a dit que j'allais être enceinte. Ah oui, tu as raison. On se relève. Ah, il n'est plus là. Effectivement, elle tombe enceinte. Vous voyez, mais vous voyez cette scène pittoresque, oui, mais il faudrait la jouer sur une scène. Faut pas la. Alors Manoar, fils, oui, c'est illisible. Faut jouer le jeu avec l'Évangile. Hein, vous voyez, cette scène de livre des juges, vous voyez, prépare justement des assemblages nouveaux avec du vieux. On fait du neuf. Mais qui sont en fait les problèmes que nous, lecteurs, nous rencontrons aujourd'hui, et que forcément, à la fin de l'évangile, on va rencontrer, et que Marc a déjà mis dans son bouquin, mais sans solution, ben, on se tait. Vous comprenez maintenant, dans la version de Marc, où les femmes entendent le message de l'ange, il est ressuscité, il n'est plus ici, etc., il vous présente dans Galilée, elles sortirent, ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient la trouille, ben, c'est une des solutions. Et quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas compris, on se tait. Mais en même temps, je cite Claudel, pour dire le secret que nous savons, ce n'est pas assez de se taire. Et j'adore, je ne sais pas où. Bref, je trouve que ça va très bien pour décrire, enfin, pour repérer le nerf, vous voyez, dans un évangile. Voilà, vous voyez, et alors, la véridiction, on l'aura dans le Magnificat. Et dans le Magnificat n'est possible qu'après la visitation. Le Magnificat aurait pu être, mais si c'est moi qui avais écrit l'évangile, j'aurais fait rapide, vous voyez. Et donc, l'ange annonce, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et je sors, Magnificat. Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas la vraie foi. Parce qu'il y a un obstacle à vaincre. Et elle ne peut reconnaître. Et d'ailleurs, le contenu du Magnificat, c'est rien de moins que le renversement de la situation. Les affamés sont repus, les pauvres sont élevés, et l'inverse, ceux qui avaient tout n'ont plus rien, et ceux qui étaient en haut sont abaissés. Vous voyez, vous avez un bouleversement radical à la clé, justement, de la fonction d'un évangile. Et ce renversement, il a comme perspective, ben, un prophète qu'on ne peut pas recevoir, on va le recevoir quand même. Il va y avoir quelque chose qui va faire que l'irrecevable sera reçu. Et ce quelque chose, cet événement, ne sera rien de moins que la passion et la résurrection du Christ. Mais c'est le mystère pascal qui va être à la clé de la possibilité de recevoir Jésus pour ce qu'il est.
Et du coup, Henri, tu dirais que si Marie va chez sa cousine, c'est pas la foi qui doute et qui veut avoir une confirmation, c'est la foi qui cherche à comprendre.
C'est la foi qui cherche à comprendre.
Et c'est une fois qu'elle a compris qu'elle éclate de joie et qu'il y a le Magnificat.
Mais parce que, y compris pour elle, parce que si on ne sait pas si on ne sait pas identifier ce à quoi on croit, la fidèle foi, l'attachement, c'est bien, mais ça ne suffit pas.
C'est déjà un peu de la théologie, la foi qui cherche à comprendre.
Bien, ah ben, alors,
Luc annonce Jean,
ah ben,
en fait.
Ah ben, Luc annonce Jean, mais il le met déjà en œuvre, parce que, je vous rappelle, il est le premier à problématiser cette question de la connaissance. à tel prix, dans telle condition, est-elle possible ? Et il y a des conditions dans lesquelles elle n'est pas possible. C'est très intéressant, d'ailleurs, pour l'évangélisation.
C'est vraiment la théologie fondamentale.
C'est pour ça que Jean le théologien, par sa méthode, mais pas dans le fond. Et vous voyez la parenté qu'il peut y avoir entre Luc et Jean. Maintenant, simplement, quelques mots sur les deux annonces. Vous rappelez pourquoi Zacharie... Il faut savoir que Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient, ou je me souviens de Dieu. Zachar, c'est la mémoire. Vous voyez ? Qu'est-ce que l'ange annonce à Zacharie ? Une histoire de couple vieux qui n'a pas d'enfant. Vous voyez ? Or, dans la Bible, Abraham, ça lui est arrivé, Isaac, ça lui est arrivé, les parents de Samson. Vous voyez, c'est une histoire où chaque fois Dieu est intervenu et nécrosés, comme ils étaient, ils vont âgés. Donner naissance à un enfant. Alors, Zacharie comme un crétin, oui, comme un type, comme un amnésique, vous voyez, quand on s'appelle Zacharie, hein, souviens-toi, enfin, je me souviens, comment ça va se faire ? Et bon, mais, vous voyez, alors, qu'est-ce qui lui est reproché ? De ne pas se confronter à l'histoire ancienne. Vous voyez, l'histoire ancienne, les récits des patriarches, par exemple, sont là justement pour nous donner une grille d'interprétation de ce qui nous arrive. Et si je n'ai pas d'enfant, etc., ben est-ce qu'il pourrait m'arriver comme il est arrivé à Abraham, à Isaac, etc. Vous voyez, donc, Zacharie ne croit pas en ne se confrontant pas justement à la parole. Vous voyez, il refuse d'être un serviteur de la parole. Vous voyez, il n'est pas étonné quand il voit un ange. Mais c'est marrant parce qu'un ange... Il aurait même pu dire « Ah, c'est quoi ça ?» Hein? Non, vous voyez, il voit un ange, ça lui fait ni chaud ni froid. Vous voyez? Mais par contre, le message de l'ange suppose de devenir plus profondément que simplement auditeur ou bien témoin, d'être au service, de faire un véritable travail d'interprétation. Il refuse. Vous voyez? Il n'actualise pas cette parole.
Du coup, une variante de Zacharie, c'est le gars qui dit « Je suis chrétien parce que je crois aux dogmes », mais il fossilise les dogmes et il ne voit pas comment ça leur concerne dans sa vie.
Tout à fait. Mais alors ça, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant. C'est loin d'aller au bout de la débat. Oui, Saint-Luc. Alors, en réponse, Marie, elle, vous voyez, alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, elle pose une question. Alors, vous avez dit, lui aussi avait posé une question. Mais la question qu'il pose n'est pas juste, parce que la réponse est dans la question. Surtout que, normalement, le prêtre juif, son principal boulot, c'est de lire la Bible. Vous voyez, c'est pas les sacrifices, hein, c'est d'abord la parole. Vous voyez, donc, il doit être un expert, il n'en fait rien. Vous voyez, Marie pose une question. Alors, pourquoi la question de Marie est-elle convenable, alors que celle de Zacharie ne l'était pas ? Vous voyez, comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme. D'ailleurs, la question est intéressante. Hein. Je ne connais pas d'homme. Oui, je ne connais pas d'anthropos. Hein. Hein. Mais oui, ce qui arrive à Marie par rapport à ce qui arrive à Zacharie. Et dans la Bible, Abraham et Sarah vont enfanter de manière très naturelle. Même si c'est miraculeux, ils vont avoir des relations sexuelles normales. Vous voyez ? Là, c'est... Elle ne dit pas « Je ne suis pas mariée ». Elle ne dit pas « Je suis vierge ». Elle dit... En grec, hein, je ne connais pas d'homme. Vous voyez ? Alors vous allez me dire, ça servait à quoi d'être marié ou d'être engagé dans le mariage si elle ne voulait pas connaître d'homme ? Vous voyez, quelquefois, on a des intuitions dans ce domaine-là. C'est pareil. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on arrive à connaître. Quand on est les premiers à les mettre en place, on tâtonne. Vous voyez, on peut avoir plusieurs intuitions contradictoires en même temps. Ça plaît beaucoup à Saint-Luc, hein, d'avoir plusieurs intuitions contradictoires. Il y aura une sortie de crise, mais ça va être plus ou moins douloureux. Vous voyez ? Mais ce qui arrive à Marie n'est jamais arrivé. Vous voyez, un enfant non fait de main d'homme, ça n'existe pas. Vous voyez, un enfant dont Dieu est le Père, ça n'existe pas dans la Bible. Par contre, l'expression « non fait de main d'homme », est-ce qu'une réalité biblique était annoncée comme un jour devant arriver, non faite de main d'homme ? C'est la même expression. Hein. Non faite de main d'homme. Une grande réalité biblique monumentale. C'est le temple, hein, vous voyez, le temple de Dieu, là où Dieu habite, le temple de Jérusalem, certains l'ont vu, hein, certainement, enfin, ont vu la base considérable, etc. Et Dieu avait promis, déjà dans l'Exode, vous voyez, qui me construit une maison, c'est moi. qui fait ma maison. C'est ma main, vous voyez, qui bâtit ma propre maison. Et vous voyez comment déjà, on entend bien que l'enfant qui va naître sera le temple nouveau. Alors c'est Saint Jean qui va développer ça aussi, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais Luc a déjà compris la chose, vous voyez, et on comprend que cet enfant non fait de main d'homme, ça sera le signe du temple. En lui va habiter Dieu lui-même. Voyez. Et Luc va raconter la Vierge Marie allant voir Élisabeth comme le langage typique de l'Arche d'Alliance. Marie, qui est enceinte déjà de ce petit bonhomme-là, qui est le Fils de Dieu, voyez, représente aussi le signe du Temple. En elle habite Dieu. Et, d'ailleurs, l'enfant d'Élisabeth, hein, Jean, va sauter dans son ventre. Oui, alors c'est un mouvement gynécologique tout à fait passionnant, mais d'un autre côté, ça rappelle que David, vous voyez, a dansé devant l'Arche d'Alliance lorsqu'il l'a ramené depuis Kiriath-Yearim jusqu'à Jérusalem. Hein, on dit que Marie reste 3 mois auprès d'Élisabeth. Alors, voyez, par exemple, comme ça faisait 6 mois que l'autre était enceinte, on dit, tiens, elle est partie au bout de 9 mois, c'est bête, parce qu'au bout de 9 mois, en général, on accouche. Commentaire du 19e siècle. Oui, il ne convenait pas qu'une jeune fille comme Marie restât pour l'accouchement de sa tante, etc. Ça ne se fait pas. Alors que, en fait, 3 mois, c'est l'Arche d'Alliance a demeuré 3 mois dans la maison d'Obed-Edom avant d'être installée dans le temple. Mais c'est de la typologie biblique où on retrouve, vous voyez, des harmonies. Mais ça, il faut devenir serviteur de la parole. Vous voyez, on regarde la scène. Alors déjà, il faut être témoin oculaire. C'est pas du. Vous voyez, quand il y a un binôme dans Saint-Luc, c'est jamais pour supprimer un des termes. Quelques exemples. Un père avait 2 fils. L'aîné, le cadet, le fils prodigue. Vous vous souvenez, hein? Bon, à la fin, bon, il y a le banquet. Vous voyez, qu'est-ce qu'on attend du. Alors la parabole. Qu'attend-on du fils aîné? Qu'il rejoigne le fils cadet. Et il ne va pas être exclu. Et ils sont séparés, il faut qu'ils se rattrapent. Et le fils qui dit oui et le fils qui dit non, faut qu'ils se rejoignent. Le pharisien et le publicain, il faut qu'ils se rejoignent. Marthe et Marie, Marthe doit rejoindre Marie. Vous voyez, hein, on va repérer très souvent chez Saint-Luc toujours 2 personnages, en une crisis. Voyez. Alors, ce n'est pas des parallèles. Les parallèles ne se rencontrent pas. Dans Saint-Luc, la synchrisis fait que les 2 personnages, dans 2 situations à la fois proportionnées mais différentes, doivent se rencontrer. Et c'est l'espérance de l'Évangile. Vous voyez, on part de là, mais on arrivera à se rejoindre. Mais vous voyez, dans ces 2 annonciations, vous voyez comment le phénomène de la synchrisis, du dédoublement, de la véridiction fonctionne. Et comment c'est déjà l'acte d'interprétation. Mais vous voyez que par rapport au commentaire, le commentaire va expliquer un tas de choses, mais le lecteur lui-même doit faire son commentaire. Et je pense qu'on a besoin d'outils qui permettent d'ouvrir pour un lecteur la possibilité de faire un commentaire qui soit non seulement objectivement juste, mais qui en plus lui convienne dans sa propre situation. C'est pour ça qu'on écrit toujours des commentaires, ça convient toujours à un certain nombre de personnes, mais chacun a besoin de se l'approprier et a besoin de devenir le commentateur de cette parole. Mais c'est une espèce de dignité à laquelle on est appelé, et le service que les enseignants peuvent rendre, c'est de favoriser cet acte de commentaire, mais pas de répéter le commentaire de quelqu'un d'autre. Tant qu'on répète le commentaire de quelqu'un d'autre, on tombe dans ce dogmatisme qui fait que, oh ben voilà, on a une formule, c'est pas la formule. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Puisque beaucoup ont déjà compris, toi, qu'est-ce que tu comprends? Vous voyez, voilà, ça c'est le but. Alors, après, chacun fait, on ne peut pas faire ça pour tout le livre de la Bible, encore que si on a le temps, si on prend le temps, ça peut venir. Mais voilà, on essaie de travailler à ça. Alors, ça vaut pour le premier, oui. Pour les naissances, ça va être à peu près la même chose. On a les mêmes, masses, si vous voulez, hein. On va raconter d'abord la naissance de Jean, et on aura un cantique, celui de Zacharie, le Bénédictus, qu'on dit le matin au Laude, voilà, qui va être la véridiction de ce qui s'est passé. Et Zacharie, qui était muet, donnant par écrit un signe de sa foi, son nom est Jean, vous voyez, il casse une vase, c'est assez amusant comme texte aussi, vous voyez, cette naissance où la vieille maman est un peu vieille, elle est sur son lit, le vieux papa, il est muet, il est âgé, tous les voisins se mêlent de tout, veulent l'appeler Zacharie comme son père, et furieux, le père finit par casser un vase et prend un tesson, son nom est Jean. Oui. Alors, comme ça correspond à ce qu'avait dit l'ange, il retrouve la parole et à ce moment-là, entonne un cantique d'action de grâce pour reconnaître que ce que l'ange a dit, non seulement est vrai, mais il le reconnaît. Ça y est, hein, il le fait sien. Vous voyez ? Et alors là, il y a un principe aussi tout à fait fondamental, mais on n'a pas toujours été éduqué comme ça, donc je le dis à temps et à contre-temps. Vous voyez ? Quand Dieu parle, c'est pas seulement pour être écouté. Et Dieu parle pour qu'on lui réponde. Mais c'est un principe que dans le monde catholique, on n'a pas forcément assez mis en œuvre. Mais Luc nous montre des personnages qui, visités par Dieu, non seulement écoutent avec le petit doigt sur la couture du pantalon, mais qui sont rendus capables de répondre à cette parole et d'engager une parole devant Dieu et établissent un véritable dialogue. Ça, c'est le but de la manœuvre. Oui. Dieu parle pour que nous parlions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Les prêtres ont le droit de parler, ils ont le devoir, mais quand on n'est pas prêtre, ce n'est pas forcément facile. Oui. Alors, il n'y a pas que la messe, heureusement. Mais vous voyez, le but de l'écoute et de l'étude, c'est de prendre la parole. Oui. N'a-t-on pas ça déjà dans la Genèse ? La première chose que Dieu demande à Adam, quand il le promène là dans... c'est de nommer les animaux. Un acte tout à fait fondamental. Voyez. Alors, il ne suffira pas de nommer les animaux et puis les plantes. Il faudra après reconnaître l'œuvre de Dieu. Voyez. Mais il y a une véritable mise à niveau, voyez, du partenaire de Dieu dans l'Alliance pour qu'il puisse répondre correctement à ce que Dieu lui propose. Et Luc est vraiment le champion, voyez, dans ses préparations. Alors, Qu'est-ce que vise Luc dans ses préparations ? Il vise la prise de parole après la résurrection. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait des témoins oculaires, qu'il voit Jésus, même qu'il dira, écoutez, vous ne comprenez rien, donnez-moi du poisson, là j'ai faim, enfin j'ai pas faim, mais je vais manger pour vous rendre service. Vous voyez, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit rendu capable de parler. Alors, chemin d'Emmaüs, lent à croire, etc. Et il faudra attendre la Pentecôte. Alors là, la Pentecôte, c'est les actes. Là, ils parleront et ne se tairont plus. Mais c'est le but. C'est le but de la manœuvre. Vous voyez, déjà, dans les premiers chapitres, on prépare la capacité à dire le mystère de la foi dans sa totalité, non seulement des annonces, bien sûr, mais à propos de la résurrection. La naissance de Jésus à Bethléem. Il ne faut pas abuser du temps.
Oui, sauf si là, peut-être... Est-ce qu'on laisse un petit espace de questions ? Tu veux m'ouvrir en 2 minutes
Simplement, non, parce que c'est des récits, on est habitué comme c'est pas possible, mais c'est très dommage. Voyez-vous, on a la scène, mais le plus important, vous voyez, c'est les cantiques, les bergers qui sont visités, vous voyez, par l'armée céleste et qui leur disent. Réjouissez-vous, une grande nouvelle, un sauveur vous est né, jusque là tout va bien, 2 points. C'est un nourrisson. Et c'est une blague. C'est une blague. Vous voyez ? Il n'a pas 39 ans. Non, mais vous voyez, le sauveur du monde, c'est un bébé. Vous voyez ? Mais alors, et qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les anges chantent. D'ailleurs, ils chantent pas n'importe quoi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, virgule, paix aux hommes. Vous voyez, c'est pas... Nous, on a cassé le truc pour le chanter correctement, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître Dieu non seulement au ciel, mais sur la terre. Là, effectivement, ça sera la paix. Vous voyez, il y a une manière un peu différente. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils y vont. Ils auraient pu dire « Bravo, c'est formidable ». Non, ils y vont, comme la Vierge. Vous voyez, après l'Annonciation, elle va visiter. Ils ont besoin, vous voyez, eux qui ont vu les anges, etc., ils ont besoin d'aller voir cet événement. Et une fois qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont raconter. Et comment réagissent les parents ? Ils ne comprennent rien. Marie est complètement, on lui dit, Marie est complètement étonnée de ce que les bergers sont capables de lui dire. Vous voyez, l'expérience, le vocabulaire, le travail de reconnaissance progressent à toute allure dès les premiers chapitres de l'Évangile et sont emblématiques de ce que le lecteur va devoir faire dans l'ensemble de l'Évangile. Et une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils repartent à leur troupeau. C'est même pas qu'ils deviennent archevêques avec la Sainte Famille. Non, ils retournent à leur boulot. Ils ont fait ce travail de véridiction, de dédoublement, de conjonction. Vous voyez, une voix du ciel, un événement sur terre, et ils l'appliquent. C'est ça le travail fondamental de l'Évangile. Et vous voyez que les récits de Noël deviennent beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds et beaucoup plus emblématiques. C'est une véritable pédagogie qui met en œuvre tout le reste de ce que Jésus va pouvoir dire et faire. Si on a pris le bon pli dans les premiers chapitres de l'Évangile, alors, au moment d'Emmaüs, on sera compétent. Si on reste dans le folklore et les images habituelles, si on ne s'approprie pas la vérité des scènes, notamment dans ces exercices de reconnaissance et de véridiction, comme on sait vrai, on n'arrive pas à parler. Vous voyez ? Alors, après, le travail peut être fait, mais je vous le laisse à faire, sur Jésus au Temple. Vous voyez, dans la même perspective, qu'est-ce que voit Zacharie, qu'est-ce que voit Siméon ? Qu'est-ce que voit Anne ? Mes yeux ont vu ton salut. Et ce cantique qu'on chante au complit, c'est quand même un moment de reconnaissance. En plus, qu'est-ce qui est à la clé ? C'est la réconciliation juif et païen. Moi, j'avoue que pour s'endormir, on fait mieux quand même, parce que c'est un boulot énorme. On dirait plutôt, allez, autre travail. Non, on se couche. Ça me choque un peu tous les soirs, mais je me dis, bon, demain matin, il faudra que je m'y mette. Mais comme ça, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ça fonctionne. Voilà, et puis les préparations. Vous voyez, voilà, vous voyez un peu pour la méthode, comment elle peut être faite. Et moi, je vous propose la semaine prochaine, si vous voulez, c'est de continuer avec le principe sur la deuxième partie, carrément la deuxième partie de l'Évangile, le ministère galiléen, de 4.13 à 9.50. On va faire surtout, si vous voulez. Alors, on fera la première et la dernière, numéro 1, numéro 8, chapitre 4, chapitre 9. Vous allez voir, ça, c'est assez intéressant. Et puis après, on verra la montée vers Jérusalem, et après, on appliquera à Passion Résurrection.
Si cette semaine, vous avez l'idée de lire un petit peu Luc, ça peut vous dire.
Oui. Ça pourra aider. Mais avec la table des matières. J'avoue, voilà, pour une table des matières, pour...
Je n'ai pas trop de questions. Il ne reste plus qu'à dire les conduits, on va faire comme Siméon.